franceinter.fr.
Bonjour. L'un des meilleurs pianistes au monde est notre invité cet après-midi dans Vous avez dit classique. Nicolas Engelich, artiste américain qui s'est formé en France et qui est souvent décrit comme un colosse aux doigts de velours, avec ce tempérament à la virtuosité qui coule de source. Nicolas Engelich est un pianiste, modeste, discret, mais incontournable. Sa façon de prendre le clavier vous emporte, avec lui par-delà les notes et la partition. L'écouter jouer, c'est avoir l'impression de comprendre la musique avec lui, la sentir vivre et vibrer. Il vient de signer un disque après quelques années de silence chez Erato. Dedication est un disque qui s'écoute dans l'ordre que l'on veut, puisqu'il raconte les relations entre trois compositeurs qui s'admiraient et se respectaient. Nicolas Engelich y interprète les œuvres que se sont dédiées Schumann, Liszt et Chopin. Il tisse le lien par l'amitié et l'admiration qu'ils se vouaient entre eux, et cela donne encore plus de sens à ses pièces pour piano seul, interprétées avec tout ce que ce grand pianiste semble en savoir. Alors on pénètre dans le sens d'une œuvre en l'écoutant respirer, vibrer sous les doigts agiles et fermes de Nicolas Engelich. Il est avec nous pour nous les faire découvrir et faire entendre la partition musicale de sa vie. Brahms, Debussy, Gershwin, Schumann, Ravel, Chopin sont au programme de Vous avez dit classique jusqu'à 17h. Bonjour Nicolas Engelich.
Bonjour.
Et puis là, à l'instant, Ravel, c'est vous qui jouez là. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de pianos, bien sûr, au programme, dans vos interprétations, évidemment, mais également celles de vos maîtres, si Aldo Ciccolini est l'un de vos maîtres.
Sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un d'incroyable qui a tellement compté dans ma vie. Et je suis venu à Paris à l'âge de 13 ans avec ma mère pour le rencontrer, pour voir si je pouvais travailler avec lui. Voilà.
Alors on va en parler, mais pour commencer, comme je disais à l'instant, qu'on pouvait prendre votre disque dans tous les sens. Chaque morceau est relié à un autre, mais ça suffit en soi. On va en faire la démonstration avec cette étude numéro 12, opus 10 de Chopin, dédiée à son ami Franz Liszt, qui clôt ce disque merveilleux qu'est Dedication.
Thank you.
L'étude numéro 12, opus 10 de Frédéric Chopin, interprétée par Nicolas Sengelich, extraite du disque Dedication qui est sorti chez Erato, et dans lequel vous tissez le lien entre Liszt, Schumann et Chopin, par l'amitié qu'ils se portaient, se vouaient, et même l'admiration. Et ça, c'est beau de savoir que des compositeurs entre eux s'admiraient.
Oui, bien sûr, c'est toujours une chose un peu qui peut fasciner le rapport humain et artistique, évidemment, par rapport à tous ces gens, et puis à d'autres, les rencontres comme ça entre des personnalités qui sont tellement originales et en même temps très très différentes, qui ont vécu dans cette époque où il se passait tellement de choses d'un point de vue culturel, la musique, enfin c'est des rencontres assez fortes, très 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 fortes, très émouvantes, très très presque violentes par le choc humain et artistique que ça peut provoquer.
En tout cas, on entend qu'il y a beaucoup de force, de résistance, de vigueur dans cette étude de Chopin que vous interprétez avec beaucoup de, oui, vous aussi de force, comme si la vie était là par-dessus tout, Nicolas Sengelich.
Mais je pense que chez Chopin, il y a aussi un élément très 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 important, évidemment. On avait un tout petit peu une image pendant un moment de Chopin. Malheureusement, il a tellement souffert parce qu'il était malade. Longtemps au cours de sa vie et en fait c'est pas du tout une musique au contraire il y a une force incroyable. Ah non, il y a bien sûr beaucoup de mélancolie, mais il y a beaucoup de passion, beaucoup de force, beaucoup de volonté comme ça.
Ouais. Alors nous allons évoquer votre vie, Nicolas Sengelich. Donc vous le disiez tout à l'heure, vous êtes venu à l'âge de 13 ans à Paris trouver le maître Aldo Ciccolini.
Oui.
Mais avant cela, vous êtes né aux États-Unis de parents musiciens.
Oui, tout à fait.
Tous deux musiciens.
Oui, absolument. Ma mère est mon premier professeur et même elle est restée mon professeur pendant très 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 longtemps après. Et puis vraiment juste une inspiration et un guide dans ma vie, quoi. Voilà, c'est tellement important.
Et
voilà.
Votre
et mon
père
aussi,
violoniste.
Bien sûr. Oui. Violoniste, donc c'est autre chose. Mais lui, il a beaucoup partagé avec moi aussi et je leur dois beaucoup. Enfin, voilà, c'est même encore peu dire. Voilà.
Alors, est-ce que c'est en hommage à votre père que vous voulez nous faire entendre la symphonie numéro 3 dans son troisième mouvement de Brahms? Parce que la place du violon est assez importante. Je ne sais pas si c'est un souvenir qu'il y a à votre père, cette symphonie.
Il adorait Brahms. Bon, il adorait de toute façon Brahms. Mmh. Et bon, à la maison, on a mis tous Brahms. Ma mère adorait Brahms. Évidemment, moi, c'est naturellement aussi quelque chose qui est très important. Je crois que c'est... Oui, c'est par rapport à lui. Et puis, c'est aussi par rapport à... Je ne sais pas si qui vous avez pu trouver comme interprète. Ben voilà, c'est aussi ça. Et parce que j'ai pu jouer... la première fois que j'ai joué avec lui, c'était à New York, avec l'Orchestre Philharmonique de New York. Et mes parents sont venus et ils dirigeaient... je crois qu'ils dirigeaient cette symphonie-là. C'est très important, tout ça, pour moi.
Alors, on va l'écouter avec l'Orchestre Philharmonique de New York, Kurt Mazur. Cet allegretto qui commence comme une plainte, et en fait c'est pas tout à fait une plainte, ça varie. En tout cas, c'est un mouvement qui nous met dans un état second.
Thank you.
la symphonie numéro 3 de Johannes Brahms dans son troisième mouvement, Allegretto Grazioso, et c'est interprété par l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Kurt Masur.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Nicolas Angelisch, on poursuit avec ce programme musical autour de votre vie. Et bien sûr, on poursuit avec Brahms, puisque Brahms était important dans votre famille. Vous l'avez beaucoup interprété. Mais je me dis que pour un pianiste, interpréter Brahms, qui était lui-même pianiste, qui adorait le piano, qui le prenait un peu, on a l'impression, comme son confident quand il composait pour lui, interpréter Brahms, ça doit être difficile, magistral. Comment l'interpréter ?
Bien sûr que c'est difficile, tout est difficile. Que ce soit des choses, des partitions avec beaucoup de difficultés techniques, entre guillemets, mais même des choses où il y a très peu de notes, hein, finalement, évidemment que c'est très difficile, c'est parfois même plus difficile. Ouais. En tout cas, nous on est là pour essayer de comprendre une partition et voir ce que ça nous fait vivre et essayer de le partager avec les gens. Et
est-ce qu'on entrevoit parfois le compositeur quand on entre dans les notes comme ça?
Oui, bien sûr, bien sûr. On rentre dans une espèce d'intimité. En tout cas, c'est quand on est vraiment un petit peu en phase avec la partition et quand on est porté par cette espèce de passion qui finalement l'inspiration qu'on a pour apprendre quelque chose, pour le travailler, pour lutter avec, pour vivre une histoire avec. Bien sûr, on a l'impression de rentrer de plus en plus dans un univers de chaque compositeur, plus on connaît sa musique. Et puis d'ailleurs, c'est très intéressant aussi de lire les choses qu'ils ont pu écrire. La correspondance, des articles, enfin, peu importe, c'est très important.
C'est vraiment un travail d'analyse, de recherche pour aller au plus près.
Oui, et puis c'est ça, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup plus que quelque chose. Il y a quelque chose de très analytique, bien sûr, dans le travail que nous on fait.
Au préalable.
Mais on est porté aussi par une espèce de on a besoin d'en savoir plus. On est porté par ça. C'est fascinant. Donc c'est un plaisir aussi.
Est-ce que vous vous souvenez de l'enregistrement que vous avez fait de ce concerto numéro 2 si bémol majeur de Johannes Brahms?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous vous souvenez à peu près, parce qu'apparemment c'est une œuvre de grande maturité, il l'a lui-même interprété la première fois en 1881, en novembre 81 à Budapest. Est-ce que vous vous souvenez exactement de l'intention peut-être qui était Nicolas Angelisch?
C'était surtout je trouve que le fait de pouvoir collaborer avec un interlocuteur, un partenaire, là en l'occurrence c'est Paavo Järvi,
le chef d'orchestre,
qui est quelqu'un que j'aime beaucoup énormément et qui est passionnant, c'est un plaisir partagé quoi, et donc on est stimulé encore plus.
On vous écoute donc avec Paavo Järvi qui dirige l'orchestre symphonique de la radio de Francfort dans ce mouvement Allegretto Grazioso. L'Allegretto Grazioso du concerto numéro 2 en si bémol majeur de Johannes Brahms, interprété par vous au piano, Nicolas Angelisch. Et puis, c'est l'Orchestre Symphonique de la Radio de Francfort sous la direction de Paavo Järvi. C'est un enregistrement de 2010, donc il y a un petit peu de temps. Oui. Ça doit toujours être une histoire de s'écouter, hein, de jouer.
C'est toujours étrange parce que si, en fait, les disques, il faut s'investir beaucoup et puis après, il faut laisser un peu. Je les réécoute pas souvent et parfois quand on les réécoute, ben il y a des bonnes surprises. Avec un peu de chance, on est
et là, ça
pas
va.
Trop mécontent. Oui, ça c'est un de mes préférés dans ce que j'ai fait.
Ouf, on a bien choisi. Alors on va poursuivre avec votre vie, cette vie qui fait que vous avez quitté les États-Unis assez jeune, à l'âge de 13 ans, pour venir suivre l'enseignement d'Aldo Ciccolini ici en France. Nicolas Angelisch, vous disiez Aldo Ciccolini, c'était vraiment parce que c'était lui. Qu'est-ce qu'il vous inspirait en particulier?
C'est difficile de parler de gens comme ça qui ont une telle importance. Je crois que pour moi, d'abord, c'est un grand maître, mais dans le sens où je suis arrivé quand même très jeune. Il était très exigeant, mais il m'a aussi mis très à l'aise. Et puis, il disait des choses très, très, finalement, très simples.
Mais vous avez ouvert la porte comme ça? La première fois, vous avez frappé à sa porte?
La première fois, on a parlé, mes parents ont parlé avec lui au téléphone et pour demander s'ils acceptaient de m'entendre, de nous voir, quoi.
Ouais.
Et puis, on allait un peu dans une aventure incroyable. Enfin, c'était
traverser un océan pour.
Oui, c'est un peu dingue quand même. Voilà, mais enfin, bref, et ma pauvre mère qui avait un tel courage, nous on mesure pas quand on est petit, enfin on mesure un peu, mais c'est évidemment beaucoup plus tard. Il était d'accord pour me prendre comme élève. Il a été assez enthousiaste et voilà, tout est parti comme ça. Hein. C'est des choses qui vous changent la vie après.
Et vous disiez qu'il était très exigeant, mais à la fois il y avait une forme de simplicité, c'est ça, dans son écoute, son approche.
Très simple et des choses. En fait, j'ai vécu une chose très spéciale avec lui. Vers l'âge de 30 ans, j'ai commencé à prendre conscience de à quel point il avait été, c'était une personne importante dans ma vie. Voilà, à quel point il m'avait influencé.
Dans votre jeu et dans votre vie.
Dans le jeu et puis peut-être aussi dans la, oui, je pense dans la vie, dans la mesure où il avait toujours cette espèce de conscience du fait qu'on a, en tant qu'artiste, on a une grande responsabilité vis-à-vis de ce qu'on fait et vis-à-vis du public, voilà. Et vis-à-vis de soi-même, bien sûr, il faut de l'exigence, voilà. Mais voilà, il a toujours eu cette espèce de modestie et c'était très incroyable.
Et parler de simplicité dans son jeu, c'est possible, Nicolas?
Oui, bien sûr, mais en même temps très riche, très complexe.
On va l'écouter dans un prélude de Debussy, celui qui dans lequel Debussy nous fait entendre son attirance pour l'humour anglo-saxon.
Ah, voilà,
c'était une petite résonance avec vous. Voici Minstrels de Debussy.
Thank you.
Minstrels, des préludes de Claude Debussy interprétés par Aldo Ciccolini, votre maître Nicolas Sengelich. Et effectivement, quand on l'entend et qu'on vous entend, on sent une familiarité de jeu. Vous l'entendez, vous ?
Oui, je pense quand même. Alors, sans imiter, sans faire quelque chose d'un peu vouloir faire dans le même genre. Non, c'est pas ça. Mais quand même, il y a quelque chose. Il y a pour moi une éthique que j'essaye de suivre, et c'est quelque chose de très important pour moi. Oui.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Percussif, j'aurais envie de dire, de votre jeu aussi, Nicolas Sengelich, qui me fait penser au pianiste Ahmad Jamal, le pianiste de jazz américain Ahmad Jamal, mais aussi à Duke Ellington, qui disent que le jazz est la musique classique américaine. Alors vous, qui êtes d'origine américaine et qui vivez ici en France, est-ce que vous pensez que ça peut effectivement se vérifier, qu'au fond le jazz serait une forme de musique classique aujourd'hui ?
Le jazz est un univers à part, voilà. Je pense que c'est tellement merveilleux. C'est quelque chose qui m'apporte énormément de plaisir, de réconfort.
Vous en jouez, vous, un peu ?
Quand j'ai bu un coup, je peux en jouer un petit peu.
D'accord.
Et c'est pas trop horrible à ce moment-là. Curieusement,
parce que ça demande
drôle,
vraiment une approche différente.
C'est très différent. C'est
rythmiquement.
Très différent. C'est pas simplement ça. C'est une espèce de liberté qui est très différente de quand on joue de la musique classique. Il y a une partition dans la musique classique. Dans le jazz, non. Enfin, vous partez d'un quelque chose, d'un texte musical, puis il faut faire votre truc à vous, quoi. D'une autre façon que dans la musique classique.
Alors, vous avez voulu nous faire entendre une chanson de Ella Fitzgerald, interprétée par Ella Fitzgerald, parce que c'est sur une musique de Richard Rodgers, extrait du musical de Broadway Spring Is Here. Il s'agit de With a Song in My Heart. Pourquoi ?
Je sais pas, j'adore Ella. J'ai entendu ça un jour par hasard et j'ai trouvé ça merveilleux.
Eh bien, on y va, vers les racines de la musique que peut-être vous ne pouvez jouer qu'avec un coup dans le nez. Nicolas Sengelich.
Though I know that we meet every night and we couldn't have changed since the last time. To my joy and delight, it's a new kind of love at first sight. Though it's you and it's I all the time, every meeting's a marvelous pastime. You're increasingly sweet, so whenever we happen to I greet you with a song in my heart. I behold your adorable face, just a song at the start. But it soon is a hymn to your grace. When the music swells, I'm touching your hand. It tells that you're standing near. And at the sound heaven opens its portals to me. Can I help but rejoice that a song such as ours came to be? But I always knew I would live. Song in my heart.
With a Song in My Heart, chanté par Ella Fitzgerald. Magnifique interprétation de 1956, Nicolas Angelich. Et pour aborder aussi avec vous cette question du jeu, parce que j'ai beaucoup lu que pour vous, il était essentiel d'être dans une stricte sincérité d'interprétation. On associe souvent le jazz à une forme de séduction. Là, quand on l'entend, Ella Fitzgerald, on se laisse emporter par le sentiment langoureux. Or, l'interprétation, selon vous aussi, c'est de la sincérité avant tout. Elle l'était, hein, d'ailleurs,
Ella Fitzgerald. Incroyable, incroyable. Quelle beauté. Voilà, elle pouvait tout faire, cette femme. Tout chanter, tous les caractères différents, très rythmé, très mélancolique,
très drôle,
rêveur,
aussi.
Très drôle, oui, absolument. Et un peu, c'est vraiment quelque chose qui est à part. Voilà, ça c'est le bonheur, ça, d'entendre ce qu'elle fait. Voilà.
Vous, comme interprète, pour revenir sur cette question de la sincérité,
oui.
Quand vous étudiez une partition, quand vous interprétez, comment faire entendre la sincérité dans votre jeu?
Oh là là, c'est compliqué comme question, mais c'est des choses importantes parce que je pense que bon, déjà il y a un apprentissage, on apprend de plus en plus au fil du temps à lire la musique mieux, à essayer de la comprendre mieux. Mmh. Évidemment, on a notre inspiration, nos élans comme ça, et puis on façonne tout ça. C'est un travail. Voilà. Et puis ensuite, je pense que ce qui compte, c'est évidemment ce qu'a écrit la personne qui nous a transmis ça, qui nous a laissé des cadeaux comme ça.
Sur papier.
Voilà. Et donc voilà. Mais c'est à nous aussi de les partager, de les vivre, de les communiquer, voilà. Et je pense que après, il faut, oui, ça peut paraître un peu, je sais pas pourquoi, la sincérité, mais pour moi c'est un mot qui revient et qui est très très important dans le mode d'expression. Je sais pas, ça me fait toujours penser un tout petit peu, enfin toujours, les acteurs, ils ont cette, comment vous voulez convaincre, qui êtes-vous, qui est le personnage, quelle est l'histoire, qu'est-ce que c'est, comment faire avec subtilité et avec vérité. Voilà, c'est tellement important.
Alors voilà un bel exemple de vérité, de sincérité, c'est Leonard Bernstein qui interprète la Rhapsody in Blue de Gershwin.
Oui.
Là, il dirige l'orchestre et il est au piano.
Oui.
On est dans la vérité, je pense, par rapport à ce que vous dites.
Alors là, c'est quelqu'un de tellement talentueux et c'est très exceptionnel.
Alors on en prend un extrait évidemment parce qu'elle dure 17
oui,
minutes.
Bien sûr.
En plein milieu, l'orchestre joue et puis on va l'entendre, Bernstein, au piano. Mm-hmm. C'est absolument exceptionnel.
Thank you.
Extrait de cette Rhapsody in Blue pour piano et orchestre de George Gershwin, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles sous direction et le jeu de Leonard Bernstein, qui, à lui tout seul au piano, Nicolas Angelich, nous donne l'impression d'être un orchestre.
Ah oui, bien sûr, oui, oui. Alors, je pense évidemment, c'est sa personnalité qui est comme ça. C'est juste. C'est débordant de vitalité, de enfin c'est fascinant, et puis c'est aussi le fait qu'il soit chef, compositeur, tout ça, et puis le piano aussi c'est quand même l'instrument qui se rapproche le plus de l'orchestre, hein.
Et qui vous rend d'ailleurs par ailleurs le plus solitaire aussi, puisque oui, il se suffit à lui-même, c'est vrai.
C'est vrai. Ça c'est quelque chose de magnifique et aussi par moments difficile, mais c'est aussi une liberté incroyable, oui.
Alors c'est ça qui fait aussi que vous pouvez enregistrer des disques comme celui que vous avez enregistré, Dedication, où vous êtes seul, où vous décortiquez des œuvres pour piano seul, celles de Franz Liszt, Frédéric Chopin et Robert Schumann. Enfin, elles s'alimentent les unes les autres.
Oui, oui.
C'était un désir de nous faire entendre à quel point finalement rien n'est sans rien, Nicolas Angelich.
Moi j'ai trouvé très émouvant le fait de alors ces œuvres, ces univers de ces trois personnalités très très différentes, mais quand même ils avaient une telle admiration, puis aussi des rapports compliqués après parfois, mais quand même au départ c'est vraiment une rencontre, quoi. C'est très incroyable, et pour moi c'était, alors chaque œuvre est vraiment à part, hein, voilà, c'est mais je trouve que le geste de dédier des choses aussi importantes les uns aux autres,
c'est reconnaître l'autre aussi,
oui,
comme compositeur,
bien sûr, et je pense que c'est très important en tant que musicien d'être ouvert aux gens déjà qui nous entourent, et puis à d'autres artistes, et puis à toutes sortes de choses, et essayer d'apprendre continuellement.
Dans un monde compétitif comme celui qui est le nôtre, mais visiblement c'est ça qui est beau aussi quand on lit un peu d'histoire sur la musique, ça a toujours été un monde difficile où on se jalouse et à la fois on s'admire. Est-ce que pour vous comme interprète aujourd'hui, être ouvert au monde, c'est quelque chose de simple, ou forcément ça suscite quelques aigreurs, on pourrait dire?
Rien n'est simple dans la vie pour personne, je pense. On a tous nos difficultés. La vie est quelque part un défi aussi, entre autres, tout le temps essayer de comprendre mieux et essayer de s'en sortir mieux et se tromper et faire mieux après, et puis essayer de prendre du plaisir, ça c'est très important aussi dans la vie, et puis travailler énormément. Je pense que dans l'art, ce qui compte c'est aussi beaucoup la sincérité, puis la liberté, le privilège qu'on a de jamais perdre de vue le plaisir et le privilège qu'on a de faire ce qu'on fait. Voilà, c'est merveilleux.
Alors j'aime beaucoup aussi le passage dédié à Robert Schumann, qui le dédie lui-même à Chopin, puisque c'est les Kreisleriana.
Oui.
C'est un moment où il est fou d'amour. Il attend éperdument Clara.
Oh là là,
ça fait trois ans. Il en a encore pour deux ans avant de pouvoir l'épouser.
C'est très, très, très compliqué. Et puis, évidemment, tellement d'amour de sa part.
Tellement d'amour. Et oui. Du coup, ça, il compose comme ça des œuvres enjouées, pleines de vie.
C'est très sombre aussi. Ça, c'est une œuvre particulièrement tourmentée.
Mais pourtant, le Hausert Bewegt est joyeux. Il ouvre, hein, je crois, le Kreisleriana, qui était un chef d'orchestre, qui le fascinait aussi.
Kreisler, c'était un personnage dans un roman de Hoffmann, et en fait, c'est l'archétype du... Enfin, quelque part, je vais vite là, mais juste pour essayer d'expliquer, c'est l'artiste torturé et exigeant vis-à-vis de lui-même et du monde, peut-être. Un peu comme Schumann.
Thank you.
Ausert Bewegt, extrait de Kreisler Jana de Robert Schumann, magnifiquement interprété par vous, Nicolas Angelisch. Et en l'écoutant, c'est vrai, je me disais, ça doit pas être toujours évident de donner autant, parce que vous donnez beaucoup quand vous interprétez. On sent que vous y êtes, hein, sur le clavier.
Ah oui, bien sûr, on doit, l'investissement est énorme et on doit, ça fait partie de la chose et puis c'est comme ça, en tout cas c'est comme ça que je veux faire, mais ça c'est sûr que c'est, ça demande beaucoup.
Ça voilà. Demande beaucoup d'émotions à donner.
Oui.
Et
oui.
C'est
comme,
beau.
Comme un jour m'a dit Martha Argerich, très justement, on parlait de choses, et puis elle m'a dit, la musique ça demande beaucoup, ça donne beaucoup. Vous prenez dans, enfin, je crois qu'elle a commencé par dire ça donne beaucoup, mais aussi n'oubliez
ça
pas,
demande
ça
beaucoup.
Demande beaucoup.
Oui, pour les interprètes en particulier. Pour nous, c'est fantastique. Donc, merci.
J'espère.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors votre disque, Nicolas Angelisch, Dedication, est sorti chez Erato, donc autour de Liszt, Schumann et Chopin. Et puis, vous serez lundi prochain au Théâtre des Champs-Élysées à Paris pour un récital autour de ce disque, on peut le dire, hein, puisque vous y interpréterez des œuvres qui apparaissent dans le disque, donc des œuvres de Chopin, Schumann et Liszt. Et puis, vous serez pour les Belges le 27 mai à Val-Dieu et le 25 juin à la Grange Mêlée en Touraine. Donc, vous allez quand même nous offrir une petite tournée de ce beau récital. Répertoire.
Ah oui, oui, tout à fait. C'est un projet qui est très important pour moi, donc je vais le faire. Et puis aussi à l'automne, dans
de
plusieurs
de
endroits.
De nombreuses dates,
oui. Oui, oui,
oui. On les mettra sur le site de franceinter.fr, la rubrique, vous avez dit classique. Alors, si vous êtes là ce week-end et que vous ne jouez pas, Nicolas Angelisch, et que vous êtes à Paris, et pour les auditeurs qui sont à Paris ce week-end, et qui ne connaissent toujours pas notre très bel auditorium
magnifique,
et sa magnifique
oui,
acoustique, hein, c'est vrai,
oui,
très belle acoustique et très belle façon de répartir aussi le public.
Formidable.
Il y aura deux concerts vendredi et samedi, dont L'amour sorcier de Manuel de Falla, par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Magnus Lindberg, qui est en résidence par l'orchestre tout au long de la saison 2015-2016. Alors samedi, l'orchestre lui offre une carte blanche. Ça sera une bonne occasion de découvrir son univers et pour vous donner un avant-goût, je propose qu'on écoute donc un extrait de L'amour sorcier, El Amor Brujo, de Manuel de Falla.
Thank you.
L'amour sorcier de Manuel de Falla, c'était la danse rituelle du feu pour vous convier à l'auditorium de Radio France samedi, vendredi et samedi prochain pour de très beaux concerts qui seront donnés donc chez nous. Et vous confirmiez, hein, Nicolas Anglisch, c'est un bel endroit.
Bien sûr, absolument. Oui. Très bel endroit.
Vous, on vous retrouve lundi prochain au Théâtre des Champs-Élysées. Oui, c'est vrai, très belle acoustique et très belle salle, très beau bois, enfin tout est magnifique. Vous, on vous retrouve au Théâtre des Champs-Élysées, donc lundi prochain pour votre récital.
Votre très belle acoustique d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs aussi, autour de ce disque qui est sorti chez Erato Dedication. Et j'invite tout le monde à aller vous voir parce que ça risque d'être très bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis on vous souhaite une longue vie musicale. C'est vrai que c'est important d'avoir des interprètes comme vous.
Donc c'est adorable. Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci aussi à Marie-Annick Rimbaud qui a réalisé cette émission, assistée de Camille Poux-Jalaguier, Claire Destacan et Alexandra Ramos da Silva. Merci à Ludovic Asselot. Demain, nous recevons Fabrice Martinez. Bonjour à vous, Charline Van Hoenacker.
Bonjour, Elsa Boublil.
Vous parlez politique peut-être aujourd'hui.
Oui, Jean-Louis Debré est avec nous. Il publie ce que je ne pouvais pas dire. Et il n'arrête pas de le dire maintenant.
Oh bah
c'est
voilà,
publié sur Robert Laffont. Et la bande arrive, on est chaud.
Allez, à tout à l'heure.